RFI.
Mondial Sport sur RFI. Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Classique ou classico à la française ou à l'espagnol, c'est un dimanche de choc sur la planète football. Nous serons à Barcelone pour évoquer la manita du Barça face au Real Madrid et à Marseille où l'OM tente en ce moment de briser la série du PSG. Reportage aussi à Buenos Aires en Argentine pour découvrir la Copa América Talla Baja, la Copa América des nains, un événement sportif mais pas seulement. Direction ensuite les routes du Burkina pour la 31e édition du Tour du Faso, rencontre avec un personnage attachant, l'homme qui fait le tour du monde à vélo, le Namibien Dan Craven. Tout ça, plus la fin des championnats d'Afrique de clubs de handball et un sujet sur le prochain Masters 1000 de Paris-Bercy. Tout ça, c'est tout de suite. Comme promis, on va filer au Stade Vélodrome pour le classique OM-PSG, épilogue de la 11e journée de Ligue 1. Juste avant, les deux résultats de la journée, deux victoires à l'extérieur, 1-0 pour Nice à Bordeaux, but de Willian Cyprien, 2-0 pour Reims à Rennes, doublé du jeune Rémi Houdin. Ces quatre équipes sont pour l'instant dans le ventre mou, seulement en 2 points entre Reims 9e et Rennes 14e. Chose promise, chose due, le Stade Vélodrome de Marseille. Bonsoir Stéphane Burgat.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
70 minutes de jeu, l'OM a tenu, mais l'OM vient de craquer.
Ouais, exactement, sur une frappe terrible de Kylian Mbappé. Il était puni, il était sur le banc au coup d'envoi. Il est rentré un petit peu après l'heure de jeu. Il lui aura fallu moins de 5 minutes à Kylian Mbappé pour s'imposer. Une course folle. Il est parti en contre tout seul et il a trompé dans un angle un petit peu fermé quand même. Steph Mandanda d'un tir croisé. C'est dur pour les Marseillais qui arrivaient quand même à faire jeu égal avec ces Parisiens. Ils ont eu leur chance. Les Marseillais, on pense à cette tête d'Ocampos en première période, bien captée par Areola, ballon assez difficile, un peu flottant, et puis en seconde période ce coup franc puissant de Dimitri Payet, Areola à la claquette pour sortir cette balle. Les Parisiens qui ont eu aussi leur chance, on pense en fin de première période à cette frappe de Yann Bernat qui avait été sauvé sur sa ligne par Kevin Strootman, le Marseillais. L'OM qui n'abdique pas, même si les Parisiens ont retrouvé les couleurs avec ce retour d'Mbappé, ils essayent de pousser, de revenir au score. Il faut dire qu'ils ont 65 000 spectateurs derrière ce stade Vélodrome qui est plein à craquer et qui croit, pourquoi pas, un retour miraculeux des Olympiens.
Et on verra ça avec vous Stéphane, on vous retrouvera en fil rouge tout au long de cette émission. Du classico, classico, l'original, le seul, le vrai, diront certains. Direction l'Espagne, FC Barcelone, Real Madrid, c'était cet après-midi au Camp Nou, et qui dit Camp Nou dit François David, notre correspondant en Catalogne. Bonsoir François.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors quand Barça rime avec Manita, ça fait mal. Victoire 5-1 des joueurs d'Ernesto Valverde cet après-midi.
Bah, c'était un peu le test entre un Barça sans Lionel Messi, qui avait su gagner sans sa superstar argentine contre l'Inter de Milan cette semaine en Ligue des Champions, et le Real Madrid qui était en crise profonde. Alors il avait un petit peu relevé la tête, le Real Madrid de Lopetegui cette semaine en Ligue des Champions. Mais il s'est complètement écroulé cet après-midi au Camp Nou, une défaite 5-1 comme vous l'avez dit, une défaite surtout qui laisse aucune interprétation possible. Le Barça était trop fort cet après-midi. Le Real Madrid, malgré une réaction peut-être en seconde mi-temps où Marcelo, le latéral gauche du Real Madrid, met le but du 2-1. Luka Modric a une occasion, il envoie sur le poteau. Karim Benzema a aussi une belle occasion, mais à partir du moment, Thomas, où le Barça a mis le troisième but, c'était fini. On a vu un groupe complètement s'écrouler, sans caractère, sans réaction. Une défaite 5-1 au final, totalement logique.
Vous l'avez mentionné, François, Lionel Messi blessé, absent, en tribune, aux premières loges finalement pour assister au festival de son compère uruguayen, Luis Suarez.
Oui, effectivement, l'Uruguayen qui a été le grand leader de l'attaque du FC Barcelone. 3 buts ce soir pour Luis Suarez, triplé. C'est la première fois depuis 1994 et un certain Romario, qui est un joueur du Barça, met 3 buts lors d'un classico quand ce n'est pas Lionel Messi. C'est dire la performance fantastique ce soir de Luis Suarez, grand leader de l'attaque, avec Philippe Coutinho qui avait marqué le premier but et Arturo Vidal qui avait marqué le dernier but, le cinquième but sur une belle passe d'Ousmane Dembélé. On va écouter tout de suite l'attaquant uruguayen du Barça, Luis Suarez.
C'est une belle victoire d'équipe. Nous sommes très fiers de montrer ce que nous valons, même sans Léo Messi. Nous sommes forts collectivement. Nous avons un super entraîneur. Nous sommes un groupe uni et cela veut dire beaucoup.
Luis Suarez, triplé ce soir pour l'attaquant uruguayen. Conséquence aussi de cette nouvelle défaite madrilène, la fonction éjectable du siège de Julen Lopetegui pourrait être activée très prochainement.
Ouais, bah, si ce n'est déjà pas activé, hein, le journal AS annonce que Antonio Conte arrive dans les prochains jours. L'ancien entraîneur de Chelsea, l'ancien entraîneur de la sélection italienne, devrait remplacer Julen Lopetegui dans les heures qui viennent. Bah, c'est historique parce que c'est vrai que le Real Madrid est certes à seulement 7 points du FC Barcelone, mais à 6 points de la zone des Royal Gap, Thomas. À 6 points de la zone où il peut descendre en deuxième division. Ça paraît totalement fou, mais le Real Madrid, derrière Valladolid, derrière Retafe, derrière Levante, début de saison catastrophique pour le Real Madrid. Et des joueurs, finalement, qui ne relèvent pas la tête, malgré un appui des joueurs pour Julen Lopetegui. Lopetegui devrait être renvoyé demain matin, mais c'est vrai que les joueurs n'arrivent pas à l'expliquer, comme Casemiro, le milieu de terrain du Real Madrid, qui, cet après-midi, plaidait plus pour une faute des joueurs plutôt que son entraîneur. On l'écoute.
Ce n'est pas la faute de l'entraîneur, c'est un tout. La faute vient principalement des joueurs. Nous devons mieux jouer, montrer plus de caractère, courir plus. Ce club est très exigeant, nous le savons, mais cette défaite par 5 buts à 1 reflète bien la saison compliquée que nous vivons.
On se pose maintenant une question, François, que peut espérer ce Real cette saison ?
Tout dépendra de la réaction des joueurs, parce que c'est quand même un groupe avec des joueurs internationaux à tous les postes. Ça dépendra comment on prend la greffe d'Antonio Conte avec ce Real Madrid. Antonio Conte qui va sûrement bouger les joueurs, hein, c'est un entraîneur style José Mourinho. Un entraîneur qui va réveiller sans doute le vestiaire. Jusqu'à quand les joueurs du Real Madrid pourront supporter la pression mise par Antonio Conte, ce sera notre histoire, ce sera un autre débat, mais effectivement il fallait un électrochoc et l'électrochoc va s'appeler Antonio Conte dans les prochaines heures. Et on va voir si le Real Madrid peut lever la tête en championnat. Il n'est pas si loin des places de tête, il n'est pas si loin, on l'a dit, des places aussi dangereuses. Et on va voir aussi en Ligue des Champions ce que peut donner le triple champion d'Europe en titre. Et ce soir, c'est une soirée très triste du côté aussi du Real Madrid.
Merci François, on va rester prudent quand même concernant le chassé-croisé Lopetegui Conte, rien d'officiel pour l'instant. Les prochains épisodes à suivre en début de semaine prochaine. Un coup d'œil sur nos écrans pour vous dire qu'il y a toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur le terrain de Marseille. On y reviendra. On reviendra au Vélodrome dans quelques instants avec Stéphane Murgat. L'Angleterre maintenant. On aurait préféré se contenter d'un compte-rendu, de vous parler des résultats des buteurs. Malheureusement, l'actualité dépasse le cadre du sport. L'actualité, c'est le crash hier soir de l'hélicoptère des dirigeants de Leicester, tout près du King Power Stadium. Plusieurs sources confirment la présence du président du club à bord de l'appareil. Pour l'instant, pas d'informations sur le bilan exact de cet accident. Autre mauvaise nouvelle, elle concerne Glenn Hoddle, l'ancien joueur et sélectionneur de l'équipe nationale anglaise, ex-milieu de terrain de Monaco. Il a fait une crise cardiaque hier, il est toujours ce soir dans un état grave. Sur les terrains, la bonne opération du jour est pour Chelsea qui s'impose 4-0 à Burnley. Les Blues remontent provisoirement à la deuxième place. Fin de série pour Arsenal, tenu en échec de partout à Crystal Palace, même si Aubameyang, le Gabonais, a marqué. Manchester United de son côté, va un peu mieux. Succès 2-1 sur Everton, but de Martial et Pogba, les Français. Et puis, on n'oublie pas l'Italie, un choc ce soir en clôture de la 10e journée de Serie A, Naples-Roma, un partout. Score final, puisqu'on parle de choc, on va retrouver Stéphane Burgat au Stade Vélodrome. Stéphane, en 45 secondes, dites-nous où en est-on, quel scénario espéré?
Toujours 1-0-1 pour Paris, ce but de Mbappé tout à l'heure et à l'instant la balle du 2-0 et Steve Mandanda qui est vigilant sur ce missile envoyé par Thomas Meunier. Il arrive à claquer cette balle, attention le corner à suivre et ça sera bien dégagé par la défense marseillaise. Toujours 1-0 pour Paris.
Merci Stéphane, on vous retrouvera bien sûr d'ici la fin de cette rencontre. Antoine Grenier, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Avec vous, on va parler sport africain, cyclisme et handball en particulier. Mais d'abord, une petite question indiscrète à vous poser. Quelle taille mesurez-vous ?
Je suis un peu plus grand que vous.
C'est-à-dire ?
1m77.
Ouais, on fait la même
c'est
taille
pas
en fait, mais on est trop grand pour le football. Taïa Barra en espagnol, petite taille, 1m40 maximum. C'est la règle appliquée aux participants d'une Copa América pour nains organisée à Buenos Aires. Il reste en Argentine, 10 nations représentées, dont le Brésil, le Chili, la Bolivie et bien sûr l'Argentine. Notre correspondante Audevillier Moriamé a assisté aux demi-finales de cet événement sportif, mais pas seulement.
Le public est déchaîné sur les gradins. Le Paraguay vient de marquer son 6e but face à l'équipe commune des États-Unis et du Canada. Nous sommes au stade de Racing, au sud de la capitale argentine. Sur le terrain de futsal, les Paraguayens de petite taille évoluent rapidement et enchaînent but après but. Drapeau du Paraguay noué sur les épaules, Natalia Amarilla est venue encourager son mari Julio, capitaine de l'équipe.
On gagne et on espère bien que ça continue. On est venu chercher la coupe, on ne repartira pas sans. Ce projet est excellent, les personnes de petite taille n'ont pas les mêmes avantages et privilèges que les autres. Souvent à cause de leur taille, on ne les respecte pas.
L'idée d'organiser une Copa América pour joueurs de petite taille revient à Facundo Rojas. Ce footballeur argentin a d'abord créé en 2014 une équipe nationale, avant de chercher à étendre le mouvement au reste du continent.
Avant, j'étais joueur de première division pour l'équipe de ma région, Corrientes. Et bien sûr, l'effort que je devais faire était 10 fois supérieur à celui des autres joueurs. J'ai donc commencé à jouer sur des terrains de taille réduite. J'ai contacté des amis et on a étendu l'idée à d'autres pays. À travers ce projet, on génère une prise de conscience, une empathie. On fait quelque chose de fort pour les gens comme nous.
Sur le terrain de futsal, les règles classiques du jeu s'appliquent. Mais les buts sont plus petits, 1m70 sur 2 contre 2m sur 3 habituellement. Tamara Sloan a voyagé depuis la ville d'Ontario au Canada pour accompagner son fils à la Copa América.
Nous voulions donner à notre fils l'opportunité de jouer avec des personnes de sa taille. C'est très important pour sa confiance en lui. C'est là qu'il se rend compte qu'il est vraiment un bon athlète.
Malgré les encouragements de Tamara, les Paraguayens l'emportent 8-0 face aux Nord-Américains. En quittant le terrain, Julio Amarilla, le capitaine de l'équipe paraguayenne, a les yeux embués par l'émotion.
On est super heureux parce qu'on se retrouve avec d'autres gens comme nous. On peut jouer au foot sans avoir peur de se blesser, comme ça arrive quand on joue avec des personnes de grande taille. Et on peut vraiment se rendre compte de notre niveau. On sent qu'on est en train de déconstruire un système, de faire tomber des barrières.
Ce dimanche, le Paraguay retrouvera en finale l'Argentine, qui a battu le Brésil 2-1. Audevillier Moriamé, Buenos Aires, RFI.
Et si ça vous intéresse, la finale de cette Copa América petite taille est à suivre en direct sur la page Facebook de l'événement. Le coup d'envoi, c'est à 23h, temps universel. On s'intéresse maintenant au tour cycliste du Burkina Faso, Antoine Grenier, où les Burkinabés à domicile brillent encore.
Une partie vendredi de Ouagadougou, on en était à la 3e étape aujourd'hui, 90 km entre Bolgatanga au Ghana et Pau au Burkina. Et vous avez suivi la course pour RFI, Éric Chorin. Bonsoir Éric.
Bonsoir Antoine, bonsoir Thomas.
Et l'homme du jour, on peut le dire Éric, c'est le Burkinabé, c'est Douba Mogo.
Oui, aucun doute là-dessus Antoine, Seydou Bamogo a marqué de son empreinte cette 3e étape en faisant en coup double la victoire à Pau et le maillot jaune à la clé. Il avait déjà tenté sa chance hier, mais l'échappée à 3 dont il faisait partie s'était fait reprendre à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée à Bolgatanga et le maillot jaune lui avait échappé pour 2 secondes. Il a donc remis ça aujourd'hui et cette fois ça a marché pour lui à l'issue d'une étape courte, 90 kilomètres et nerveuse où les très nombreux gendarmes couchés ou ralentisseurs si vous préférez ont joué leur rôle. Dès le départ au Ghana, il sort avec son compatriote Aziz Balboné et le Camerounais Clovis Kamzonga Bosolo. Tous trois sont repris après le premier sprint bonification et c'est là que la bonne échappée se forme. Une vingtaine de coureurs dont les 8 premiers au général, Bamogo en est encore, tout comme Kamzonga Bosolo. Le premier s'offre alors le luxe de quitter ce groupe avec 2 Belges qui visent la victoire d'étape. Ils sont avec lui donc Dieter Bouvry et Joëri Kaléo. Pendant ce temps, le second chute en passant à ralentisseur, chute dans laquelle est pris le Burkinabé Saïfo Bikenga qui ne repart pas après être tombé tête en avant sur la chaussée. Kamzonga Bosolo Cosrelo, lui, remonte à vélo et rejoint les 20 coureurs en chasse derrière les trois échappés. Trois hommes qui vont au bout et c'est Seydou Bamogo qui va se montrer le plus rapide sur la ligne pour la plus grande joie des nombreux spectateurs à Pau. Le Burkinabé prend aussi les commandes de la course avec 18 secondes d'avance sur le Belge Dieter Bouvry et 37 secondes sur le duo constitué par l'Allemand Julian Hellmann et l'ancien maillot jaune, son coéquipier Mathias Sorgho. Seydou Bamogo a décidément de la suite dans les idées.
Oui, cette fois-ci, c'est enfin la bonne. Donc, je suis vraiment heureux. Et j'ai la dédié cette victoire à ma femme chérie. Et j'ai dédié ce maillot à notre tout nouveau président, le colonel Yahane Mangré Sorgho, qui le transmette à qui des droits.
Explique-nous ce que tu voulais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as tenté?
Ce que j'ai d'abord tenté, avec bien sûr la complicité de mes camarades, le premier point chaud dans la ville où on a pris le départ. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc on a tenté encore de suivre encore les échappés. J'ai eu la chance d'en faire partie. Donc j'ai roulé, j'ai écouté les consignes. Donc on est arrivé, j'ai gagné. C'était pas évident parce que c'était des adversaires vraiment tenaces.
Et le maillot jaune, super, non?
Oui, le maillot jaune, super. Je m'attendais pas à ça. Je suis fier. Donc je sais pas quoi dire. Les mots me manquent.
Les mots qui manquent à Seydou Bamogo, nouveau leader de ce Tour du Faso après trois étapes. Il ne manque pas en revanche à l'une des figures du cyclisme africain depuis des années, Eric. Vous l'avez rencontré, il s'agit du Namibien Dan Craven.
Ouais, longue barbe fournie, cheveux coiffés en catogan. Dan Craven, c'est l'Africain blanc du peloton à 35 ans. C'est aussi l'un des plus grands globe-trotteurs du vélo. Depuis ses débuts en Namibie où il est né, il a couru partout en amateur et chez les professionnels au sein d'équipes britanniques, allemandes, azéries, israéliennes ou françaises, avec en point d'orgue hein, ce passage au sein de l'équipe World Tour Europe Car, celle de Jean-René Bernodeau, qui lui a permis de disputer et de terminer le Tour d'Espagne 2014. À plus de 30 ans. Dan Craven, surtout connu hein, sur le circuit africain où il a remporté le titre de champion d'Afrique en 2008, une étape du Tour du Rwanda en 2010 ou le Grand Prix Chantal Biya au Cameroun en 2014. Mais il n'avait encore jamais pris le départ du Tour du Burkina Faso avant cette année. Alors, c'est comment, Dan?
Ah oui, c'est dans longtemps que j'écoute les choses du Burkina Faso et jamais avoir une opportunité de venir ici. Alors, c'est les dernières années de mon carrière et je dis, je peux pas arrêter faire les courses sans faire un Burkina Faso. Et après les premières étapes, je suis chaud. Et chaleur ici, c'est vraiment fort. Mais c'est vraiment un plaisir. Tous les jours, quand je viens en autre pays, en Afrique, c'est vraiment une expérience un petit peu la même, mais un petit peu complètement différente. Mais tous les jours de 2003, quand j'ai commencé à faire la course en Afrique, les nouveaux de tous les pays, petit en petit, ça monte. Et c'est vraiment un plaisir d'être une part du mouvement.
Dan Craven, fier et heureux, Antoine, de participer au mouvement, au progrès constant du cyclisme africain et des coureurs qui le lui rendent bien. Quand il a cassé sa potence ce matin, il s'est adressé aux autres coureurs sur la ligne de départ et il a trouvé de l'aide sans problème. Son ouverture d'esprit y est sans doute pour beaucoup, une ouverture d'esprit qu'il a cultivée à travers le monde. Mais a-t-il été surpris par quelque chose au Burkina, lui qui a tant voyagé? Dans combien de pays, au fait?
Oh, alors, aujourd'hui, c'est la, je pense, 44e pays où j'ai fait une course professionnelle. C'est un record du monde.
À travers le monde.
Oui, j'ai fait course en, je sais pas combien de pays en Afrique, mais 15, 18, je sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est pas une grande surprise voir les choses ici, mais une chose que je veux dire est, ils sont beaucoup vélos ici. Pas les vélo de course pour prendre les baguettes du matin pour aller à l'école. Ils sont vraiment beaucoup et les personnes y utilisaient les vélos et aujourd'hui en le course, une fois les regarder à côté de la route, j'ai vu un petit magasin de vélo. C'est pas un magasin où je compre quelque chose pour mon vélo. Mais ça, je n'ai pas vu en Sénégal, en Nigeria, en Gabon. Et alors, ici, c'est une culture du vélo et c'est vraiment un grand plaisir de voir ça. Ça, c'est la plus grande surprise pour moi.
Dan Craven, le Namibien, comme un poisson dans l'eau au Burkina Faso. Merci pour cette rencontre, Eric Chorin. Demain, la quatrième étape, vous y serez, de ce Tour du Faso. Elle vous mènera jusqu'à Waiguia.
Mondial Sport sur RFI.
Allez, nouveau détour par le Stade Vélodrome de Marseille. Les cinq dernières minutes du classique de la Ligue 1. Stéphane Burgat, Marseille pousse, mais Marseille pour l'instant n'y arrive pas.
Ouais, ça a été chaud là, un instant électrique même sur la pelouse. But refusé aux Marseillais sur une faute initiale sur Marquinhos, le Parisien. Ça paraissait peu évident comme ça dans le feu de l'action. Il faudra revoir les images de ralenti. Kevin Strootman, le Marseillais furieux après l'arbitre, a pris un carton jaune, on vient de voir à l'instant. Rudy Garcia, l'entraîneur marseillais, également en grande discussion avec l'arbitre de cette partie. Le public qui gronde et les Marseillais qui poussent. Et il leur reste 2 minutes exactement dans le temps réglementaire. Ils croient en leur chance. Ils ont eu quelques occasions quand même assez chaudes dans cette partie. Ils peuvent espérer, pourquoi pas, l'image des Marseillais, on s'en souvient, la saison passée, arracher, pourquoi pas, ce nul dans les toutes dernières secondes. Ils s'en donnent les moyens, en tout cas sur le terrain.
Et pour l'instant, donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Handball à présent, Antoine, au championnat d'Afrique des clubs champions. C'est bien simple, on prend les mêmes et on recommence.
Les deux champions en titre, hommes et dames, ont conservé leur couronne chez les messieurs. Les Égyptiens du Zamalek ont battu leur rival Kerot de toujours, Al Ahly, 27-25, cinquième titre de suite pour les Angolaises du Primeiro de Agosto devant leur compatriote Luandes du Petro, 25-21, au terme de 10 jours de compétition, de plutôt bonne tenue en termes sportifs. Mais entre problèmes de moyens et de médiatisation, l'organisation a laissé quelque peu à désirer, comme a pu le constater notre correspondant Yoann Gourlet.
Dans un palais des sports surchauffé pour la toute première fois de la compétition, la finale entre le Primeiro de Agosto et le Petro Atlético de Luanda a tenu toutes ses promesses. Mais les rouges et noirs d'Agosto dominent du début à la fin et l'emportent de 4 buts. La Congolaise de l'équipe, Christiane Moisessa, est aux anges.
Mon Dieu, je ne sais pas comment exprimer cette joie-là. Je suis trop contente. Mais trop contente, trop contente. Nous, on est fiers, c'est notre récompense de travail. Quand une femme, elle fait la musculation, elle soulève 250 kilos et arrive à gagner, c'est parfait. C'est trop bien, je vais faire la photo.
Plus de 3000 personnes étaient présentes ce soir, mais les tribunes étaient bien plus clairsemées durant le reste de la compétition. 500 personnes tout au plus pour les matchs des équipes ivoiriennes. Un échec selon le journaliste sportif et blogueur ivoirien Fernand Dely.
Il y a eu faillite totale. Ça a été une compétition qui s'est déroulée pratiquement devant des gradins vides pendant 10 jours. Aujourd'hui, on constate que pour la finale, les organisateurs ont dû faire appel à des jeunes pour pouvoir faire salle comble. C'est de bon augure, il y a de l'ambiance. Mais fondamentalement, la compétition s'est jouée entre handballeurs, entre les équipes qui participent à cette compétition. La télévision nationale ne produit même pas la compétition en direct parce que simplement les organisateurs au niveau de la fédération ont manqué de vision. Ils se sont contentés de faire de la routine. Ils n'ont pas su mettre la communication, les médias à l'intérieur du dispositif.
Au niveau sportif, rien à dire. Tout le monde en convient. Tous les matchs ont lieu dans les temps. Les sportifs ont fait preuve de fair play. Mais les joueurs regrettent le manque de moyens mis à leur disposition à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Truna Nikienta Olivier, joueur de l'USFA.
Oui, c'est la moins bonne des organisations, en tout cas des Coupes d'Afrique auxquelles j'ai pu participer personnellement. Parce que quand nous regardons les logements, d'habitude les gens sont logés dans des hôtels. Les caractéristiques des hôtels sont données. Là, nous sommes à l'Institut, dans des dortoirs qui sont préfets, pas de connexion Internet. Bon, les lits, les matelas, vraiment, ce ne sont pas les conditions que j'ai encore, en tout cas, eu l'occasion de voir. Il y a eu tellement de disputes, de bagarres au niveau de la restauration. Ben bon, mais ils ont essayé d'améliorer autant qu'ils peuvent. Nous n'avons pas eu, en tout cas, d'explications vraiment qui puissent convaincre, en tout cas.
Face à ces critiques lancées tout au long du tournoi, Noël Assemiam, directeur sportif de la Confédération africaine de handball, rappelle les problèmes de timing.
Il faut reconnaître que la fédération a eu l'organisation de la compétition assez tard. Parce que cette compétition était prévue se tenir au Cameroun. Et donc la fédération de Côte d'Ivoire a été vraiment sollicitée.
Autre déception, les petites performances des équipes ivoiriennes. Chez les dames, l'Africa Sport termine 5e et le Bandama Handball 9e et donc dernier. Les hommes du Red Star prennent la 7e place. Présents en tribune, les ministres des Sports et de l'Éducation ont annoncé vouloir redonner leur lettre de noblesse au handball dans le pays en soutenant davantage ce sport à l'école, ainsi qu'une fédération ivoirienne légèrement dépassée. Abidjan, Yoann Gourlet, RFI.
Une page tennis maintenant pour vous signaler d'abord le sacre d'Elina Svitolina au Masters féminin à Singapour. Victoire de l'Ukrainienne aux dépens de Sloane Stephens, l'Américaine. Les hommes, eux, ont rendez-vous à Paris à partir de demain pour le Masters 1000 de Bercy. Gaël Monfils, le Français, a décidé de faire l'impasse. Mais Rafael Nadal sera bien là. Roger Federer, qui vient de remporter à Bâle le 99e titre de sa carrière, devrait aussi être de la partie, tout comme Novak Djokovic, le Serbe, inarrêtable depuis quelques semaines. Il a un objectif très précis, la place de numéro 1 mondial, et il est pour Guy Forget, le directeur du tournoi, le grand favori de cette 33e édition.
Novak Djokovic est le joueur qui a gagné le plus de fois ce Rolex Paris Master. Il est aujourd'hui très très en forme. Il vient de gagner les deux derniers grands chelems de l'année avec l'US Open et Wimbledon. Il va être très dur à battre. Il a envie, je pense, de récupérer sa place numéro 1 mondial. Il avait un espèce de détachement par rapport au jeu, hein. Il y a encore un an, lorsqu'il jouait pas bien du tout, il semblait être un peu ailleurs. Et là, comme par enchantement, on a retrouvé ce joueur extraordinaire qui a l'appétit d'un jeune premier. Et ça fait plaisir à voir, parce que pour l'intérêt du jeu, on a envie de voir des Djokovic Nadal, des Djokovic Federer, des Novak contre Joe Wilfried Tsonga ou d'autres joueurs français. Voilà, donc cet enjeu de place de numéro 1 mondial, je crois qu'elle va amener beaucoup de piment à cette édition.
Comment vous expliquez que Rafael Nadal n'ait jamais réussi à gagner ce Masters 1000 de Paris-Bercy ?
J'ai envie de dire qu'il est tellement fort mentalement, Rafael Nadal. C'est le joueur qui probablement sait s'adapter le mieux à un court glissant, à du vent, à du soleil, à une baisse de régime d'un adversaire. Alors que ce n'est pas probablement le meilleur joueur techniquement. Des Roger Federer, des peut-être Djokovic sont, au niveau du timing, de la frappe pure, lui sont un peu supérieurs. Mais dans des conditions de jeu où effectivement il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, le court, il n'y a pas un fourbon, il y a des joueurs qui sont capables, dans un bon jour, de le faire trébucher. Dans toutes les autres circonstances, les quatre grands chelems se jouant en extérieur, c'est probablement lui le plus fort mentalement. Et c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à s'imposer autant à l'extérieur et peut-être finalement si peu en indoor.
Il y a des outsiders pour la gagne.
Un joueur dont on parle peu souvent, mais qui a souvent très bien joué ici, c'est John Isner. C'est pas juste un bombardier, quoi. Donc voilà, un garçon qui a déjà fait des finales ici et pourrait à nouveau, pourquoi pas, battre des Djokovic, des Rafael Nadal. Il l'a déjà fait par le passé. Et puis après, il y en a plein d'autres. Je veux dire, Joe a déjà gagné ici. Est-ce qu'il va retrouver confiance au fil des matchs? C'est ce qu'on lui souhaite. Et puis la nouvelle génération, il y a Shapovalov, il y a Tsitsipas, qui lui aussi en revers à une main et un jeu qui nous rappelle parfois un peu celui de Roger Federer. Des joueurs qui ont beaucoup de talent, et on espère que cette édition 2018 leur donnera l'occasion, j'irai, de se révéler.
Est-ce que vous comprenez que Gaël Monfils ne veuille pas disputer ce tournoi de Bercy?
On est un petit peu triste parce que on aime tous beaucoup Gaël, le public français l'adore, il a souvent très bien joué par le passé en plus au Rolex Paris Master, il joue très bien en ce moment et laisser passer une opportunité comme celle-là, d'aller rejoindre le dernier carré, pourquoi pas faire mieux. On aurait aimé, c'est vrai, le voir jouer à Paris aussi.
Les joueurs français vont tenter de gagner leur place pour la finale de la Coupe Davis, prévue dans pas longtemps, fin novembre.
Oui, et c'est vrai que pour revenir à Gaël Monfils, en faisant ça, je pense qu'il simplifie la tâche de Yannick Noah. Ah oui. Maintenant, je crois que ce soit Benoît Paire, pour ce qui a été un peu la surprise de la dernière rencontre, Joe Wilfried Tsonga, qui veut revenir à son meilleur niveau, qui a peut-être le retrouver ici, Lucas Pouille, qui était quand même un peu le pilier de cette équipe, et puis tous les autres, je parle des anciens, bien entendu, c'est l'occasion de marquer des points. Donc ils vont avoir à cœur, devant Cédric Pioli, Yannick Noah et Loïc Courtois, ici, de frapper fort, de faire pourquoi pas une demi-finale, et de se rendre presque, pour le coup, indispensable dans cette équipe. Parce que on sait que la formule de la Coupe Davis va évoluer, et de jouer à Lille devant 25 000 personnes face à la Croatie, c'est une occasion rêvée, je veux dire, de marquer l'histoire de son sport. Et ça, je peux vous dire que les anciens et les plus jeunes aimeraient faire partir cette aventure.
Guy Forget, le directeur du tournoi de Bercy, avec Eric Mamrut. On retourne au Vélodrome. Stéphane Burgat, cette fois, s'est plié. Victoire du PSG 2-0 à Marseille.
Oui, le match ça y est terminé, 2-0, le but de Draxler dans les toutes dernières secondes de cette partie. Il reprend en fait un tir trop croisé de Neymar qui était parti en contre. Cette balle allait sortir et il se jette pour là reprendre la poussée au fond des filets. Les Marseillais qui ont quelques regrets à nourrir, ils ont tenu bon, ils ont été bons dans l'engagement, ils ont eu quelques situations et on va beaucoup reparler, on imagine, ici à Marseille, de ce but qui a été refusé tout à l'heure. Acosta s'est mis trop glou sur une faute commise sur sur Marquinhos au tout début de l'action. Ça a mis en rogne les Marseillais. Il y a eu plusieurs cartons qui ont été donnés par la suite pour des contestations de l'arbitrage de Benoît Bastien. Mais voilà, c'est fait. Paris qui enchaîne une 11e victoire consécutive en championnat. Ils égalent ce vieux record détenu par les Anglais de Tottenham.
Merci beaucoup Stéphane Burgat. Merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Merci à Valentin Vaner, le maître du temps. Bonne soirée sur RFI. Tout de suite, un nouveau journal.